Bon, alors quelques mots sur la Araba que nous sommes en train de remonter là. C'est une section de cette fosse syro-africaine qui a près de 5000 km de long, qui est non seulement la plus longue mais aussi la plus profonde des failles de la planète. Et son point le plus profond, c'est l'endroit où nous allons arriver bientôt, là-bas du côté de Sodome et Gomorre et de la mer Morte. Alors cette faille, d'après certains, commencerait entre le Liban et l'Anti-Liban, c'est pas certain. Ensuite elle continue par la vallée du Haut-Jourdain, et puis ensuite le lac de Galilée, la vallée du Jourdain proprement dite, la mer Morte, la Araba, cette portion de l'Araba que nous faisons maintenant, et puis la mer Rouge jusqu'au détroit de Bab el-Mandeb. Et certains pensent que les lacs en forme de lune qui sont en Afrique orientale sont encore partie de cette faille. Alors c'est pas seulement un écroulement, la partie en face a remonté d'une centaine de kilomètres, si bien qu'on a encore là-bas en face, et vous, des paysages analogues à ceux qu'on voyait beaucoup plus au sud de ce côté-ci. Et on trouve là-bas plus loin des mines de cuivre, comme on en a trouvé là, du côté de Timna, près d'Elat, et Pounon, dont on parle dans la Bible, en liaison avec le serpent d'Airain, et puis des fonderies célèbres. C'est justement à l'endroit un peu plus haut là-bas. On va remonter encore pour réaborder notre thème fondamental. On va amorcer une descente au point le plus profond. Tenez, où est-ce qu'on commence cette descente? Eh bien, quand on arrive de la mer Rouge, là, on monte jusqu'à une sorte de ligne de partage des eaux entre la mer Rouge, là-bas, et puis la mer Morte. C'est ce qu'on appelle le dos de la Araba, Gav à Araba, l'endroit le plus étroit. Et la mer Rouge est au niveau zéro. On monte, on arrive à une ligne de partage des eaux qui, sur la carte, si vous cherchez, c'est Chelouchat Notsa. Et puis, à partir de là, on descend. Et bientôt, vous allez voir un poteau que vous allez rencontrer souvent dans le reste de notre périple. Il y a marqué niveau de la mer. À ce moment-là, on descend en dessous du niveau zéro et puis on amorce cette descente. Et on va trouver la frontière sud de Canaan. Et là, on reprendra nos lectures. Ceux qui ont étudié la littérature là, de cette aventure des 40 ans, on arrive à distinguer comme deux blocs littéraires. Hein. Un bloc autour de la Sainte Montagne, avant la Sainte Montagne, autour de la Sainte Montagne, après la Sainte Montagne. Des récits grandioses qu'il faut lire autant que possible au rythme de la marche, comme on l'a fait. Et puis alors, un autre bloc, très mystérieusement, mais tellement bien fusionné avec le précédent qu'on peut faire des thèses, pas longueur de vie, sans arriver à voir exactement où situe la couture. Il y a Kadesh Barnea, il y a un essai qui est un échec de pénétration en terre promise du côté de Chorma, de Harad. Et puis à la suite de cet échec, les Hébreux retournent vers d'après le schéma biblique, retournent vers la mer Rouge, et le golfe d'Aqaba, le golfe d'Elat, porte le nom de mer Rouge aussi à cette époque-là. Et puis ensuite, alors, ils remontent sur ces hauts plateaux. Ils suivent alors cet enchaînement de pays. Il faut apprendre la litanie, Madian, Edom, Moab, Amon, Galaad, et puis le plateau de Golan. Ici, nous sommes en face d'Edom. Et les Hébreux ne font pas la guerre à Edom et à Moab, parce que ce sont des parents. Alors on contourne, ils refusent le passage. Et puis alors ils arrivent en Moab, là on verra tout à l'heure l'histoire de Balaam, je la regarde pour tout à l'heure, il faut savoir se limiter de là où nous sommes. Pour le moment, le principal, et je voudrais qu'on ne se distrait pas de cela, c'est cette descente au point le plus profond du globe qui est une invitation à descendre au point le plus profond de nous-mêmes et à retrouver, comme tout le déroulement de l'histoire sainte nous invite à le faire, à retrouver la nécessité d'une nouvelle alliance qui ne sera pas une autre alliance, mais qui sera une alliance nouvelle qui sera une nouvelle création, une régénération par l'eau et par l'esprit. Ce que David, le psaume qu'on a mis dans la bouche de David, crée en moi un cœur pur, vois mauvais je suis né. Lev d'ahor bera li Elohim, veruach nachon chadesh bekirvi. Il faut une régénération totale, c'est ce que Nicodème, et on lira le récit du serpent d'Airain là-bas un peu plus loin, semble n'avoir pas compris. Et c'est, semble-t-il, tout le thème principal de cette journée que nous vivons aujourd'hui.
Alors on est entouré de désert, là, un désert écrasé par le soleil, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et puis là, on est juste au pied d'un monument en pierre.
Oui, alors ce petit monument, alors là, c'est parce qu'on est ici le plus près de Petra. Et alors, au début, l'État d'Israël, au lendemain de la guerre de 48, là, c'était devenu un sport chez certains garçons, là, d'aller prendre des photos à Petra. Ici, on est au point le plus proche, pour rapporter les photos, passer à la barbe des légionnaires de la Légion arabe, et puis revenir montrer les photos aux copains et aux copines. copine. Ce sport se répandait, il a fallu prendre des règlements pour l'empêcher. Il y a un garçon ici qui a laissé sa peau en faisant ce sport. Mais tenez, si vous regardez les cartes du côté de Petra, c'est intéressant à noter au passage dans la théologie des lieux saints, vous remarquerez qu'il y a le Wadi Moussa, c'est ce qui fait jour à Moïse, qu'il y a le Djebel Haroun. Et en général, quand un paysage est impressionnant, et le paysage de Petra, je ne l'ai fait que le voir d'avion. Bon, je n'ai jamais été là-bas. Mais c'est un pays ennemi encore maintenant. On est séparés par une frontière qui est d'armistice simplement. Mais quand un paysage est beau, splendide, il pompe, il aspire. Hein, tous les récits les plus grandioses de la Bible. Moi, je crois que c'est comme ça que c'est normal au fond. Et on trouve quelquefois un paysage est tellement approprié au texte qu'on dit ça ne peut être passé que là. Et puis c'est là qu'on lit. En fin de compte, c'est principal. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que on perd beaucoup de temps à chercher de localisation précise, à se demander si le rêve d'Élie, le rêve de Moïse, le rêve du buisson ardent, c'est la même montagne. Et on perdrait aussi du temps si on se demandait où se trouve exactement la montagne de la transfiguration qui reste anonyme dans les textes du Nouveau Testament. Est-ce le Tabor, est-ce l'Hermon? On parle d'une haute montagne. Et c'est la montagne aussi où apparaît Moïse et Élie, c'est ça le principal. Que désir de trouver des localisations précises ne nous distrait pas de l'essentiel de ce que la Bible veut nous dire au plan de la signification. Vous avez des questions là sur encore sur...
Encore une, bon, qui va paraître un peu au ras des pâquerettes. Mais je vois, on remonte donc toute cette route là déjà depuis une heure, et puis on va encore rouler pendant un moment. Et puis à droite et à gauche, de temps en temps, il y a des kibbutz, je pense, où on a vu des vaches, où c'est vert. Alors je me demande comment l'eau arrive ici alors que il est 10h du matin et on est écrasé de soleil déjà.
Ça, il faut demander ça aux techniciens. L'eau du lac de Galilée n'arrive pas jusqu'ici. Mais là, il y a des nappes souterraines. Et un peu plus loin, il paraît qu'il y a des nappes qu'on pourrait pendant des siècles les exploiter, extrêmement riches. Enfin, ce pays n'est pas sans ressources, et si ce qui était consacré aux nécessités de l'armement et tout cela était consacré à la développement de part et d'autre, ça serait un pays de cocagne. Maintenant, c'est beaucoup qui avaient commencé à coloniser le Sinaï, là, surtout la zone là-bas de après Gaza, du côté de l'Arish. Après les désengagements, il a fallu les restaurer. Ils avaient pris le goût du désert, de la vie d'aventure et puis de la vie dure. Alors on a souvent réinvesti par ici. Alors je vous disais que la frontière climatique, il y a des données naturelles, mais en même temps l'ingéniosité humaine peut rendre cette frontière très très fluente. Alors actuellement on a une expansion de l'agriculture. Tenez, on va traverser dans peu de temps l'embouchure du Nahal Paran en plein désert là. Alors l'eau coule abondamment quand il pleut là-bas dans les montagnes qui sont à l'ouest. Il y a des crues. On l'a traversé, vous vous rappelez, quand on a descendu le bas. Et alors, à l'endroit où les crues ne passent pas, on a fait un village, recueille précieusement l'eau des crues en hiver, et vous allez voir les cultures, tout d'un coup une tache de verdure là, c'est magnifique. On est appelé à s'émerveiller non seulement de la nature telle qu'elle sort des mains de Dieu, mais aussi de tout le travail, de ce que l'homme créé à l'image de Dieu est capable de faire dans la nature. Et souvent, on pense que plus la science progresse, plus le bon Dieu recule, pas du tout. L'homme est appelé, au contraire, par Dieu, à participer à la création et puis à la mise en valeur de tout.
On est invité à un émerveillement inconditionné, non seulement pour ce que Dieu a créé, mais ce que l'homme créé à l'image de Dieu est capable de faire dans la nature quand il en respecte les lois. Et il y a un texte que j'ai l'habitude de lire ici, vers les mines de Timna, qu'on a déjà dépassé, et puis les mines de Punon, qui sont sur la droite là-bas. Il y en a qui pensent que ces montagnes qu'on longe de l'autre côté de la Araba, c'est la terre de Houtz, d'où est originaire Job. Moi, je suis toujours pour les professeurs qui pensent que c'est là où on passe, comme ça on a l'occasion de lire les textes. Et c'est un beau texte là, qui nous invite à nous émerveiller des travaux que les hommes font dans les mines. Écoutez un peu le chapitre 28 de Job, on le connaît trop peu, le livre de Job. Il existe pour l'argent des mines, pour l'or, un lieu où on l'épure. Le fer est tiré du sol, la pierre fondue livre du cuivre. On met fin aux ténèbres, on fouille jusqu'à l'extrême limite la pierre obscure et sombre. Des étrangers percent des ravins en des lieux non fréquentés, et ils oscillent, suspendus, loin des humains. La terre d'où sort le pain est ravagée en dessous par le feu, et là les pierres sont le gisement du saphir et aussi des parcelles d'or. L'oiseau de proie en ignore le sentier, l'œil du vautour ne l'aperçoit pas. Il n'est point foulé par les fauves altiers, le lion ne l'a jamais frayé. L'homme s'attaque au silex, il bouleverse les montagnes dans leurs racines. Dans les roches, il perce des canaux, l'œil ouvert sur tout objet précieux. Il explore les sources des fleuves, amène au jour ce qui restait caché. Mais la sagesse, d'où provient-elle? Où se trouve-t-elle l'intelligence? L'homme en ignore le chemin, on ne la découvre pas sur la terre des vivants. L'abîme déclare, je ne la contiens pas, et la mer, elle n'est point chez moi. On ne peut l'acquérir avec l'or massif, la payer au poids de l'argent, l'évaluer avec l'or d'Ophir, l'agate précieuse ou le saphir. On ne lui compare pas l'or ou le verre, on ne l'échange point contre un vase d'or fin. Coraux et cristal ne méritent pas mention. Mieux vaudrait pêcher la sagesse que les perles. Auprès d'elle, la topaze de couche est sans valeur, et l'or pur perd son poids d'échange. Mais la sagesse, d'où provient-elle? Où se trouve-t-elle l'intelligence? Elle se dérobe aux yeux de tout vivant, elle se cache aux oiseaux du ciel. La perdition et la mort déclarent, la rumeur de sa renommée est parvenue à nos oreilles. Dieu seul en a discerné le chemin et connu, lui, où elle se trouve. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout ce qui est sous les cieux. Lorsqu'il voulut donner du poids au vent, jauger les eaux avec une mesure. Quand il imposa une loi à la pluie, une route au roulement du tonnerre, alors il la vit et l'évalua, il la pénétra et même la scruta. Puis il dit à l'homme, la crainte de Dieu, voilà la sagesse, fuir le mal, voilà l'intelligence. Si on avait le temps, je vous lirais aussi l'émerveillement de Job. On a passé près d'une réserve naturelle entre la route et la frontière jordanienne. Les bouquetins, sais-tu, quand les bouquetins font leurs petits, as-tu observé les biches en travail? Qui a lâché l'onagre en liberté, dédié la corde de l'âne sauvage? L'aile de l'autruche peut-elle se comparer au pennage de la cigogne et du faucon? Donnes-tu au cheval la bravoure? Est-ce avec ton discernement que le faucon prend son vol? Et puis les grosses bêtes monstrueuses, regarde donc, Béhémoth, ma créature, tout comme toi, il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Et Léviathan, le pêches-tu à l'hameçon, etc., etc. Et Job, il sait très bon, c'est Dieu, je sais que tu es tout puissant, et ce que tu conçois, tu peux le réaliser. J'étais celui qui voile tes plans par des propos dénués de sens. Bon, on va continuer, et bientôt on va retrouver la frontière sud de Canaan, et là on reprendra la suite des récits que le paysage nous invitera à méditer.
Allez, on continue maintenant vers le point le plus profond du globe. On s'arrêtera à la frontière sud de Canaan.
Alors, nous avons voyagé dans cette Araba, là, vers le nord, et nous voilà maintenant à la frontière de Canaan. Elle est décrite, cette frontière, je vous lis le chapitre 34 du livre des Nombres. Au verset 3, la région méridionale de votre domaine s'étendra à partir du désert de Tsin. Rappelez, c'est là qu'on avait campé l'autre jour, qui confine à Édom. Édom, c'est cette région vague, là, aussi bien de l'autre côté de l'Araba qu'ici, après cette frontière au sud et à l'est. Votre frontière méridionale commencera du côté de l'Orient à l'extrémité de la mer Salée. Si vous regardez par là, vous apercevez une région blanchâtre. Ce sont des fonds lacustres de la mer Morte qui, dans l'Antiquité, très reculée, elle est 30 km plus au sud que maintenant. Puis elle obliquera au sud vers la montée des Scorpions. Si on continuait la route maintenant, ici nous sommes à un endroit qu'on appelle Ovot, si on continuait la route là-bas, on tomberait sur la montée des Scorpions, elle est à Krabim. Et puis alors de là, on voyait la montagne de Hor, où est mort Aaron, qu'on appelle Artsin. Elle obliquera au sud vers la montée des Scorpions, passera par Tsin et aboutira au midi à Kadesh Barnea. Et puis ensuite le tracé alors continue pour aboutir à ce qui est actuellement El Arish, là, au milieu de la côte nord de la péninsule sinaïtique. Alors c'est un texte là qui revient à plusieurs reprises dans la Bible. On est invité ici à reprendre nos lectures. D'abord, Édom refuse le passage. Oh, j'enchaîne ce texte qu'on a lu hier à propos de l'eau qui sortait du rocher, à Kadesh Barnea. Ça se passe à Kadesh Barnea, là où Myriam meurt. Moïse de Kadesh envoya des messagers au roi d'Édom. On voudrait bien traverser votre pays. Nous n'irons pas à travers les champs et les vignes. On ne boira pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale. Alors, Édom les répondit, tu ne passeras pas. Alors ils insistent, mais rien à faire, et Édom dit, tu ne passeras pas. Alors ils partirent de Kadesh, et les Israélites, toute la communauté, arrivèrent à Hor, la montagne. Alors c'est là que Aaron meurt.
Moïse et Aaron, les deux protagonistes de cette aventure, vont mourir hors des frontières de la terre promise. La mort d'Aaron est racontée ici, à la frontière sud de Canaan. Et puis la mort de Moïse, nous serons mieux demain pour la raconter lorsque nous serons en face du mont Nebo. Moïse fit tout ce que Dieu avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor. Moïse ôta à Aaron ses vêtements pour en revêtir son fils Éléazar. Et Aaron mourut là au sommet. Et on pleura à Aaron pendant 30 jours.